franceinter.fr.
Il n'y a plus d'échappatoire. Le Parlement doit choisir et prendre ses responsabilités vis-à-vis du pays.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
La séance est ouverte depuis le théâtre du Vieux Colombier avec les comédiens du Français. Aujourd'hui, la restitution du débat sur la loi Simone Veil de 1974. Ceux qui avaient voté Mitterrand à la présidentielle de 1974 n'attendaient pas de grands changements de la part de Valéry Giscard d'Estaing, mais pas davantage ceux qui avaient voté pour le nouvel élu, qui prévoyait que les mots prononcés pendant la campagne auraient un contenu. Et voilà, soudain, que s'ouvrent des pistes qui paraissent inouïes. Par exemple, dans le domaine qu'on dit aujourd'hui sociétal, la majorité à 18 ans, le divorce par consentement mutuel, l'allocation aux parents isolés, la suppression du registre dans les hôtels qui permettait de repérer les couples illégitimes. Le débat sur l'avortement s'inscrit dans ce climat de réforme. À l'époque, la loi de 1920 était encore en vigueur et il suffisait d'un juge d'instruction vindicatif pour la réveiller. Des cars partaient chaque week-end pour Amsterdam, remplis de candidates à l'avortement. Michel Poniatowski, le premier conseiller de VGE, jugeait qu'il fallait agir vite. Plus que des autorités religieuses, la difficulté allait venir des parlementaires de droite. Valéry Giscard d'Estaing n'avait pas osé convoquer de législative après la présidentielle. Sa toute neuve ministre de la Santé, Simone Veil, venue de la magistrature, entre donc pour la première fois dans l'arène face à une majorité, en principe la sienne, mais déterminée en réalité à dire non, comme elle l'avait déjà fait l'année d'avant, pour une réforme bien moins libérale et qui avait échoué. La présidence de l'Assemblée est assurée par Edgar Faure. La parole est à la ministre de la Santé, Madame la ministre.
Mesdames, Messieurs, si j'interviens aujourd'hui à cette tribune, ministre de la Santé, femme et non parlementaire, pour proposer aux élus de la nation une profonde modification de la législation sur l'avortement, croyez bien que c'est avec un profond sentiment d'humilité devant la difficulté du problème. Mais c'est aussi avec la plus grande conviction que je défendrai un projet longuement délibéré par l'ensemble du gouvernement. Pour quelques-uns, les choses sont simples. Il existe une loi répressive, il n'y a qu'à l'appliquer. Pourquoi consacrer une pratique délictueuse et ainsi risquer de l'encourager ? Pourquoi légiférer et couvrir ainsi le laxisme de notre société ? Favoriser les égoïsmes individuels au lieu de faire revivre une morale de civisme et de rigueur ? Pourquoi donc ne pas continuer à fermer les yeux ? Parce que la situation actuelle est mauvaise. Elle est mauvaise. Parce que la loi est ouvertement bafouée, pire même, ridiculisée. Lorsque l'écart entre les infractions commises et celles qui sont poursuivies est tel qu'il n'y a plus à proprement parler de répression, c'est le respect des citoyens pour la loi et donc l'autorité de l'État qui sont mises en cause. Lorsque les médecins enfreignent la loi et le font connaître publiquement, lorsque des services sociaux fournissent à des femmes en détresse les renseignements susceptibles de faciliter une interruption de grossesse, alors je dis que nous sommes dans une situation de désordre et d'anarchie qui ne peut plus continuer. Mais, me direz-vous, pourquoi ne pas faire respecter la loi ? Parce que si des médecins, si des personnels sociaux, si même un certain nombre de citoyens participent à ces actions illégales, c'est bien qu'ils s'y sentent contraints. Parce qu'en face d'une femme décidée à interrompre sa grossesse, ils savent qu'en refusant leurs conseils et leur soutien, ils la rejettent dans la solitude et l'angoisse d'un acte perpétré dans les pires conditions qui risque de la laisser mutilée à jamais. C'est à ce désordre qu'il faut mettre fin. C'est cette injustice qu'il convient de faire cesser. Mais comment y parvenir ? Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Et je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame, et cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et, autant que possible, en dissuader la femme. Le gouvernement s'est fixé un triple objectif. Faire une loi réellement applicable, faire une loi dissuasive, faire une loi protectrice. Le gouvernement a estimé préférable de reconnaître qu'en définitive, la décision ultime ne peut être prise que par la femme. Une femme sur laquelle pèse l'entière responsabilité de son geste hésitera davantage à l'accomplir que celle qui aurait le sentiment que la décision a été prise à sa place par d'autres. Ce qu'il faut, c'est que cette responsabilité, la femme ne l'exerce pas dans la solitude ou dans l'angoisse. Tout en évitant d'instituer une procédure qui puisse la détourner d'y avoir recours, le projet prévoit donc diverses consultations médicales qui doivent la conduire à mesurer toute la gravité de la décision qu'elle se propose de prendre. Ce sera en outre une nouvelle occasion d'évoquer avec la femme la nécessité dans l'avenir d'utiliser des moyens contraceptifs pour ne plus jamais avoir à prendre la décision d'interrompre une grossesse. Cette information en matière de régulation des naissances, qui est la meilleure des dissuasions de l'avortement, nous paraît si essentielle que nous avons prévu d'en faire une obligation. Les entretiens qu'elle aura eus, ainsi que le délai de réflexion de 8 jours qui lui sera imposé, ont paru indispensables pour faire prendre conscience à la femme de ce qu'il ne s'agit pas d'un acte normal ou banal, mais d'une décision grave, qui ne peut être prise sans en avoir pesé les conséquences et qu'il convient d'éviter à tout prix. Ce n'est qu'après cette prise de conscience, et dans le cas où la femme n'aurait pas renoncé à sa décision, que l'interruption de grossesse pourrait avoir lieu. Je voudrais enfin vous dire ceci. Au cours de la discussion, je défendrai ce texte sans arrière-pensée et avec toute ma conviction. Mais il est vrai que personne ne peut éprouver une satisfaction profonde à défendre un tel texte, le meilleur possible à mon avis sur un tel sujet. Personne n'a jamais contesté que l'avortement soit un échec quand il n'est pas un drame. Mais nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les 300 000 avortements qui, chaque année, mutilent les femmes de ce pays, qui bafouent nos lois et qui humilient ou traumatisent celles qui y ont recours.
Mes chers collègues, la discussion est ouverte. Monsieur Jean Foyer, député du Maine-et-Loire.
En réalité, c'est la liberté d'avorter sans limite et sans cause que ce texte reconnaît durant les 10 premières semaines de la grossesse. Droit souverain de la mère, non pas de donner ou de ne pas donner la vie, ce qui est la définition même de la contraception, mais de faire disparaître la vie déjà commencée. Proclamation d'un droit contraire à la mission la plus naturelle et la plus indispensable de la femme, qui est de donner la vie et non la mort.
Non.
Monsieur Lucien Levyrse, député de la Loire, vous avez la parole.
La régulation des naissances traduit un état d'esprit.
Elle manifeste la volonté d'une société d'entrer dans un univers conscient où chacun pourra assumer la plénitude de ses responsabilités parce qu'il parviendra à la réalisation de lui-même, à la connaissance et au contrôle de ses capacités. Grâce à une information largement diffusée par l'éducation sexuelle et avec le libre accès aux moyens contraceptifs, la femme détiendra enfin la maîtrise de ses maternités. Ne les subissant plus, elle deviendra pour l'homme une compagne égale à lui. La régulation des naissances, ce n'est pas seulement utiliser des contraceptifs comme on prend de l'aspirine pour calmer un mal à la tête. C'est autre chose que la caricature qu'en présentent ses détracteurs, coupable pour une lourde part de l'augmentation du nombre des avortements. Ils appartiennent au passé et ils viennent, encore aujourd'hui, agitant des images atroces et insoutenables, telles les zombies de la légende, pour boucher toutes les issues, sauf celle de la contrainte ou de la mort. Personne, mes chers collègues, personne ne possède le monopole du respect de la vie. C'est précisément parce que l'avortement est un mal que tout doit être mis en œuvre pour le sortir de sa clandestinité. Les femmes, victimes livrées à toutes les spéculations, dont chaque jour, chaque semaine, chaque mois qui passe, augmente le contingent douloureux, trouvent dans la clandestinité une condamnation supplémentaire pour leur corps, leurs âmes et leur descendance future. Je ressens, moi-même, combien il est difficile d'émettre un vote sur un tel sujet. Je suis de ceux qui croient que la vie est programmée dès la conception et qu'une grossesse interrompue arrête un processus de création, comme les bottes des chasseurs dans la forêt écrasent des promesses d'arbres. Comme l'éducation sexuelle ou la contraception, l'interruption volontaire de grossesse se situe chez chacun d'entre nous, personne n'y échappe, à un carrefour de contradictions et d'exigences opposées. Pour ma part, je le dis gravement, je rejette l'avortement comme méthode de contraception. Mais j'accueille les femmes qui s'y trouvent contraintes aujourd'hui par la faute de notre législation, de l'hypocrisie de notre société et aussi, nous devons le reconnaître, par la faute de l'écrasant et séculaire égoïsme masculin. Il s'agit de manifester un acte de foi dans la capacité de notre peuple à se conduire. C'est aussi un acte de confiance envers les Françaises, car je suis convaincu que bien informées, éduquées et disposant du libre accès aux moyens de contraception, elles renonceront à l'avortement.
Ma chère collègue de Paris, Madame Gisèle Moreau.
Chaque jour, de 1 000 à 1 500 femmes ont recours à l'avortement clandestin. L'injustice sociale est patente, car ce sont avant tout des femmes de milieux modestes qui y ont recours, et cela dans les pires conditions. Qui a recours à l'avortement clandestin ? Principalement, des femmes âgées de 20 à 30 ans, déjà mères de famille. 90% d'entre elles justifient leur acte en invoquant de graves difficultés sociales. Difficultés financières ou de logement, santé défectueuse, grossesse à répétition, désespoir de jeune fille. Se résoudre à un avortement, c'est pour une femme faire un choix grave. C'est entreprendre une quête humiliante et désespérée. Mendier une adresse, frapper à toutes sortes de portes. C'est ensuite supporter la mise en œuvre de moyens dangereux et mutilants. C'est accepter des risques terribles. Dans ce domaine, à notre siècle, les femmes se trouvent confrontées à la barbarie. Face à ces drames cachés, nous voyons l'hypocrisie de ceux qui ont contribué à créer ces situations dramatiques par la politique qu'ils ont menée ou soutenue. Nous les voyons se découvrir une vertu sociale qu'ils ne manifestent jamais au moment de passer aux actes. De tels propos n'ont rien à voir avec le respect de la vie. Il n'y a pas de respect de la vie sans respect de l'être humain, sans reconnaissance de la dignité de la femme et de son sens de la responsabilité. Nous ferons tout pour porter haut les exigences des femmes. Nous les appelons à refuser l'austérité et les sacrifices qu'on veut leur imposer. Les femmes veulent conquérir leur égalité par le travail, la famille, dans la société, avoir le temps et les moyens de vivre et d'élever décemment leurs enfants, participer aux choix qui les concernent. Tout cela suppose un changement profond de politique.
Bravo.
Monsieur Albin Salandon, député des Hauts-de-Seine, vous avez la parole.
Prendre position dans ce débat au nom de l'État, c'est oublier sa religion, sa morale même. L'État est neutre, il est laïque. Son rôle est d'apporter une solution aux problèmes concrets, tels qu'ils se posent dans la société, et non pas tels qu'on voudrait qu'ils se posent. Or, l'avortement existe. L'interdire ne sert à rien. Une femme qui veut interrompre sa grossesse le fait. L'ignorer conduit à des misères physiques ou morales que seul l'argent permet d'atténuer, donc à des inégalités, à des injustices. Il faut donc le prendre en compte comme un fait social, un fait humain. L'avortement concerne la femme, éventuellement le couple. L'État n'a pas à s'immiscer dans la décision en refusant la possibilité du choix.
René Faite, député du Jura.
Le Parlement est en fait appelé à se prononcer sur le plus grave problème qui puisse jamais être posé au législateur. Celui du droit de vie ou de mort, de surcroît du droit de vie ou de mort d'êtres innocents et sans défense. En effet, tel est bien le problème. Allons-nous légaliser une atteinte grave au respect de toute vie humaine? Allons-nous admettre le permis légal de tuer?
Non.
Non.
Oui, la vie commence dès la fécondation et le moment de la conception est la ligne de partage entre la non-vie et la vie. Laissez-moi vous faire entendre l'enregistrement sur magnétophone des battements de cœur d'un fœtus de... Laissez-moi vous faire entendre l'enregistrement sur magnétophone des battements de cœur d'un fœtus de 8 semaines et 2 jours. Et l'on voudrait, en appliquant la loi qu'on nous propose, faire cesser de battre ce cœur que vous venez d'entendre. Mes chers collègues, vous comprenez pourquoi je clame du haut de cette tribune le droit au respect de la vie de ces innocents, hélas bientôt condamnés peut-être par ceux qui veulent établir une société permissive, aphrodisiaque, c'est-à-dire allumeuse de passion... charnel. Allons-nous trahir avec le respect de la vie les valeurs traditionnelles et fondamentales de notre nation? Allons-nous bafouer l'opinion des pères et des mères de France? Allons-nous trahir la philosophie de toutes les religions chrétiennes et non chrétiennes? Admettre officiellement le droit de tuer des êtres humains les plus innocents de tous, c'est saper les bases de la civilisation. C'est introduire dans la société un principe de mort qui permettra aux plus forts d'éliminer les plus faibles. C'est reconnaître progressivement l'eugénie, puis l'euthanasie. Quand on oublie que le droit à la vie est inviolable, on peut, après l'introduction de l'avortement, préconiser des mesures contre les handicapés physiques ou mentaux, contre les bouches inutiles, contre les incurables, contre les poids morts de la société, Et on arrivait, mes chers collègues, arrêtez, au pire racisme nazi.
Ah non, 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 non.
On a dit que les nations qui tuent leurs enfants ne méritent pas de survivre et ne survivront pas. Qu'adviendra-t-il de la France?
Monsieur le député de la Réunion, monsieur Michel Debré.
Dans cette grande affaire, ce qui domine, c'est l'incertitude. Cependant, il faut trancher. Non seulement parce que la situation législative et pénale est devenue inconvenante, mais aussi parce que la femme est toujours punie sans que soit jamais recherchée la responsabilité masculine. Trois points d'ancrage possibles peuvent être dégagés pour une nouvelle législation. Premier point, la vie humaine exige respect et protection. Or, elle existe dès qu'elle est conçue. Le respect de la vie humaine est le premier temps du respect de la liberté. Second point, la maternité dans notre société a besoin non seulement d'être soutenue, mais aussi encouragée. Le projet de loi eût dû comporter un chapitre prévoyant des dispositions ayant pour objet de soutenir et d'encourager celle qui donne la vie. Troisième point, il y a des cas de détresse de la future mère qui peuvent justifier certaines autorisations du législateur. Mais qu'appelle-t-on détresse ? Et qui apprécie l'état de détresse ? Il y a détresse quand la vie de la mère est en danger. Il y a détresse quand de graves infirmités condamnent le futur être à une vie misérable. Cette détresse-là ne présente pas de grandes difficultés pour le législateur. La véritable difficulté réside dans la détresse qui n'est pas médicale. La femme est en bonne santé, l'enfant peut naître, mais la femme ne veut pas, le couple père-mère ne veut pas, une certaine peur les étreint. C'est alors que le législateur ne peut pas, par quelques mots jetés sur le papier, se décharger de ses responsabilités qui sont d'assurer le respect de la vie humaine, sauf drame exceptionnel. Il faut s'entendre sur le mot « détresse ». N'est pas détresse l'appréhension devant la maternité, n'est pas détresse la contrariété d'un couple qui n'a pas voulu d'enfant au moment où il a été conçu. Ne doit pas être détresse la crainte de parents incompréhensifs ou l'égoïsme d'un mari ou d'un compagnon. Ne doit pas être détresse l'inquiétude sur le maintien de l'emploi ou sur l'exercice d'une profession. Ne doit pas être détresse la solitude de la femme qui n'est pas mariée. Dans la plupart de ces cas, pour ne pas dire dans tous, la société, parce qu'elle veut le respect de la vie, se doit d'organiser conseil, aide, protection et soutien. Aidons-nous la mère de famille? Nous préoccupons-nous de la maternité? Non. On nous demande de voter une loi incitant à l'interruption de la grossesse. Faisons-nous notre devoir? Non. Nous ne le faisons ni à l'égard de la famille, ni à l'égard de la femme, ni à l'égard de la nation. La promotion de la dignité humaine, notamment la promotion de la dignité féminine, ce ne peut pas être la suppression de toutes les contraintes qui ne sont pas seulement dans la nature des choses, mais qui sont également l'essence de notre culture. Passer de la répression aveugle à l'absence de toute contrainte, c'est aller d'un excès à l'autre, d'une erreur grave à une autre erreur grave. C'est marquer une sorte d'abdication du législateur devant la difficulté. Ce que je propose, d'abord, affirmer le principe du respect de la vie humaine. Ensuite, accueillir, soutenir, protéger, promouvoir la maternité qui doit être le plus souvent une maternité volontaire, mais féconde. Enfin, déterminer les procédures raisonnables, mais exceptionnelles, selon lesquelles, face à des détresses dramatiques, l'interruption de la grossesse peut être autorisée. Voilà qui eût été du bon travail législatif, car c'eût été du bon travail social, à la fois national et humain.
Avant de passer au vote, mes chers collègues, Madame Simone Veil.
La très large discussion qui s'achève maintenant a montré que les députés se partageaient entre deux tendances. Certains font passer avant toute autre considération le respect de la vie et partant une conception de la vie, que d'aucuns peuvent trouver trop abstraite et trop théorique. Conception de la vie qu'ils sont d'ailleurs contraints eux-mêmes, par honnêteté intellectuelle, de faire céder devant certains cas trop douloureux ou trop dramatiques. D'autres veulent allier le respect de l'homme et le respect de la vie, le respect de la dignité de la femme et de sa responsabilité, le respect de sa détresse et de sa souffrance. Parmi eux se trouve la majorité des médecins membres de cette Assemblée et la plupart des femmes parlementaires, c'est-à-dire ceux qui, par métier ou par confidence reçue, ont la plus grande expérience en la matière. Je remercie tous ceux, membres de la majorité ou de l'opposition, qui ont participé à ce débat en conscience, je le sais. Au moment où ils vont avoir à se prononcer, je demande aux membres de l'Assemblée de garder présente à l'esprit non pas des principes théoriques ou abstraits, mais la situation concrète, douloureuse et dramatique des 300 000 femmes qui, chaque année, sont concernées par l'avortement. Il n'y a plus d'échappatoire. Le Parlement doit choisir et prendre ses responsabilités vis-à-vis du pays.
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi. Le scrutin est ouvert.
Il est procédé au scrutin public ordinaire par bulletin.
Le scrutin est clos. Voici les résultats du scrutin. Nombre de votants, 479. Pour l'adoption, 284. Contre, 189. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi.
Pour être précis, il faudrait dire que 99 députés de la majorité seulement ont voté pour, 118 ont voté contre, dont 48 qui appartenaient au parti de Valéry Giscard d'Estaing. Les experts électoraux ont tenté le calcul. Le vote de la loi Veil a retiré 3 à 400 000 voix à Valéry Giscard d'Estaing, sans qu'il en gagne aucune à gauche. Ajouter l'abaissement de la majorité à 18 ans, l'élection de 81 était peut-être déjà perdue en 1974, la détermination politique peut coûter cher. La séance est close. Les comédiens du français depuis le vieux Colombier, Sylvia Berger, était Simone Veil, Bruno Raffaelli, René Feit, Pierre Ancis, Lucien Neuwirth, Michel Favori, comme d'habitude, Michel Debré, et dans l'hémicycle, Alexis et Timothée Chevalier, Grégoire Roqueplot, l'équipe de Radio France, Stéphane Ronxin à la réalisation et à la technique, Gérard Cognet, Laurent César, Mathieu Leroy, la restitution des débats, Isor Pisani Ferry. Tous nos remerciements à l'équipe de la Comédie Française qui nous a accueillis encore une fois.